Nous accueillons Sophie Orange, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes et qui va non pas nous parler des premiers cycles universitaires, mais plutôt se centrer sur la question de la réussite et l'échec chez les élèves de BTS et, je pense, aussi d'IUT.
Merci. Je commence par remercier les organisateurs pour leur accueil et pour l'organisation de ces deux journées et puis pour cette invitation. Donc effectivement, on a beaucoup parlé du premier cycle universitaire pendant ces deux jours. Donc moi, je vous propose de déplacer un peu le regard et puis de considérer que l'enseignement supérieur en France, ce n'est pas uniquement l'université, loin de là, mais qu'il y a d'autres institutions d'enseignement supérieur. Alors, je ne parlerai pas de toutes les institutions d'enseignement supérieur, mais je propose d'aller voir du côté des cycles courts professionnalisants post-baccalauréat, que sont les IUT et les BTS ou les STS, suivant l'appellation, mais c'est la même chose. Et je pense qu'aller regarder ces cycles courts nous permet d'éclairer aussi en creux ou en négatif des éléments sur l'échec et la réussite des étudiants en premier cycle universitaire. Donc je vais essayer, dans le cadre de cette intervention, de mettre en évidence le rôle des caractéristiques des étudiants, des contextes d'études et des spécificités disciplinaires en cycle court. Alors c'était la commande en fait qui m'avait été faite, donc ça va être plus ou moins bien réussi, mais le rôle de ces trois éléments sur la réussite et l'échec des étudiants et par le prisme donc des cycles courts. Et à mon sens, ces trois dimensions, elles doivent être considérées ensemble. Et je reviendrai là-dessus juste après. Juste pour expliquer un petit peu sur quoi je m'appuie pour parler aujourd'hui, je m'appuie sur une enquête principalement que j'ai faite dans le cadre de ma thèse de doctorat qui a été conduite entre 2008 et 2012 et qui consistait dans le suivi d'une cohorte de 900 étudiants de BTS de la région Poitou-Charentes, qui était donc répartie dans 30 établissements, dans 20, n'exagérons pas, 20 établissements de la région Poitou-Charentes, et donc que j'ai suivi pendant toute leur formation, depuis leur entrée jusqu'à l'obtention ou non du diplôme. Donc ça consistait en 4 interrogations, une première interrogation à l'entrée de la formation, une deuxième interrogation au début de la deuxième année, une troisième interrogation à la fin de la deuxième année et une dernière interrogation à l'issue du diplôme. Donc mon intervention sera principalement basée sur les BTS, j'essaierai de tirer des fils vers les IUT, mais c'est vrai que je parlerai surtout quand même des BTS. Alors première zone d'ombre que je peux pointer par rapport au cycle court professionnalisant post-baccalauréat que sont les BTS et les IUT, eh bien, c'est qu'ils sont relativement peu étudiés dans les travaux de recherche et qui sont paradoxalement considérés comme relativement connus. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup de choses sur les BTS et les IUT, et finalement, ils sont relativement peu travaillés. Et on verra que finalement, les considérer comme similaires, eh bien, c'est oublier de les replacer dans l'espace de l'enseignement supérieur et de considérer réellement les caractéristiques des publics qu'ils accueillent. Plus largement, dans le cadre de cette intervention, je vais essayer de montrer qu'une analyse d'une forme pédagogique particulière n'a de sens que, d'une part, en replaçant cette forme pédagogique à la place qu'elle occupe au sein du système d'enseignement supérieur, au sein de la structure de l'enseignement supérieur, avec une approche, et là je vais reprendre des choses qui ont déjà été dites hier et aujourd'hui, mais dans une approche très localisée, très située, contextualisée, voire historicisée, on pourrait dire, en reprenant un peu la filiation des travaux d'Émile Durkheim, par exemple, sur l'évolution des formes pédagogiques, ou les travaux de Christophe Charles sur l'université. Donc ça, c'est la première chose qui me semble importante. Et la deuxième chose, c'est que pour étudier une forme pédagogique particulière, eh bien, il faut la considérer en relation avec les autres formes pédagogiques qui ont cours dans l'enseignement supérieur. Et là, c'est plutôt une perspective relationnelle à laquelle j'inviterai là dans la filiation plutôt des travaux de Pierre Bourdieu. Et à mon sens, donc, il faut tenir eh bien, les deux, cette perspective à la fois diachronique et puis cette perspective synchronique. au final, et pour le dire un peu autrement, j'inviterai à une définition un peu élargie de la notion de configuration pédagogique, hein, qui ne soit pas centrée sur l'institution que l'on étudie, mais bien qui replace cette institution dans le paysage académique réel. Alors je reviendrai là-dessus, hein, qu'est-ce que c'est que le paysage académique réel ? Pour moi, c'est les formations qui sont effectivement à proximité dans une offre d'enseignement supérieur localisée. Et puis, l'inscription de la forme pédagogique dans le paysage académique symbolique. Donc là, c'est plus l'idée d'une hiérarchie des formations d'enseignement supérieur. Et on verra donc une hiérarchie qui se base sur des critères comme l'origine sociale ou l'origine scolaire comme critère classant. Alors, je rentre un petit peu plus dans mon analyse. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, les cycles courts sont relativement peu connus. Et paradoxalement, ils peuvent apparaître comme une forme pédagogique idéale, parfois, hein, je grossis un peu le trait, mais parce qu'ils combinent un certain nombre de caractéristiques qui semblent s'allier plutôt bien avec la question de la réussite des étudiants. Parmi les caractéristiques de ces cycles courts, on a d'abord la sélection des étudiants à l'entrée, ça a été évoqué un petit peu ce matin. On a également le taux d'encadrement élevé des étudiants, on est dans une forme secondarisée, hein, puisqu'on a un fonctionnement qui va reprendre assez fortement le fonctionnement de l'enseignement secondaire. Et puis, on a également le caractère professionnalisant de la formation. Et donc, ça apparaît parfois et souvent même dans les discours comme ce que je disais, voilà, une forme ou un modèle pédagogique idéal qui permettrait effectivement de soutenir les parcours des étudiants et de garantir leur réussite. Alors comment ? Parce que d'abord, la sélection permettrait d'éviter les erreurs d'orientation et permettrait donc de pouvoir choisir un public qui serait directement ajusté à la formation. Deuxième élément, le taux d'encadrement fort permettrait de faciliter la transition entre le secondaire et le supérieur, d'autant plus que la forme pédagogique en elle-même ne varie pas beaucoup entre les deux. Et puis, le caractère professionnalisant permettrait d'assurer le projet professionnel des étudiants et d'armer leur insertion professionnelle. Donc, je vais essayer de revenir dans le cadre de mon intervention sur ces caractéristiques. Et puis, je vais déconstruire, on a commencé un petit peu à déconstruire des choses hier, notamment avec la notion d'abandon qui a été un petit peu, et puis d'échec qui a été un peu déconstruit. Moi, je vais continuer un petit peu à déconstruire des choses. Alors, je reconstruirai à la fin quand même pour ne pas laisser les choses en morceaux. Mais l'idée, c'est un petit peu de travailler ces notions et voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Dans un premier temps, et je vais commencer là vraiment à rentrer dans le cœur de mon intervention, j'inviterai à ne pas déduire mécaniquement des intitulés et des caractéristiques des formations, les types de publics qu'elles accueillent et les usages qui sont faits de ces formations par les étudiants. Et puis, dans un deuxième temps, j'inviterai à analyser donc les formes pédagogiques en lien avec le type de public qu'elles accueillent, en lien avec l'espace réel de formation dans lequel elles s'inscrivent, et puis l'espace symbolique dans lequel elles s'inscrivent. Alors, formes pédagogiques et recrutement des étudiants. Donc là, je me situe au moment de l'entrée dans une formation au moment de la question du tri. Ça a été évoqué aussi hier, la notion de tri a été formulée. Là, je me situe donc dans cette première partie au moment du tri des étudiants. Et dans la seconde partie, ce sera plus la question de la socialisation des étudiants. Est-ce que le fait d'être dans une formation particulière apporte ou non, on le verra, aux étudiants. Donc, des caractéristiques des formations à leurs usages réels. Là, je vous l'ai dit, généralement, on se base sur l'idée et on part des caractéristiques des formations pour déduire mécaniquement leurs usages réels par les étudiants. Et c'est comme ça que on considère généralement l'enseignement supérieur comme binaire, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des filières sélectives et de l'autre des filières non sélectives. Et donc on considère qu'on a deux types d'étudiants et qu'on aurait deux types de parcours d'études. D'une part, on aurait donc ces formations sélectives qui à la fois seraient choisies par les étudiants et dont les étudiants seraient choisis, et puis d'autre part, les formations non sélectives, en l'occurrence c'est l'université, qui ne peuvent pas choisir leurs étudiants. Si on suit ce raisonnement, effectivement, on a le sentiment que peut constituer un dossier de candidature, passer un concours pour rentrer dans une formation sélective, eh bien, serait le fait d'une démarche active, d'une démarche positive d'orientation, et cela permettrait effectivement de se garantir d'avoir des étudiants qui veulent effectivement venir dans ces formations et qui ne sont pas là par hasard. À l'inverse, le fait d'entrer dans une formation non sélective, eh bien, pourrait laisser la place à des orientations passives et eh bien, qui pourraient par la suite se transformer en abandon. Autre élément également qui est souvent dit à propos des formations sélectives, c'est qu'elles, en ce qu'elles peuvent choisir leurs étudiants, eh bien, elles accueilleraient de fait les meilleurs des étudiants et les formations qui ne peuvent pas choisir leurs étudiants accueilleraient les étudiants qui restent, à savoir les moins bons étudiants. Donc là, on peut résumer ça à deux amalgames. Premier amalgame, sélection égale élection. Choix positif, et puis sélection égale élitisme. Et là, je vais revenir là-dessus, donc, à partir de l'analyse des sections de techniciens supérieurs. Premier élément qu'il faut mettre en évidence, même des sections de techniciens supérieurs et des IUT, si on prend les chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante, on se rend compte que les orientations par défaut et les taux importants d'orientation par défaut, eh bien, se retrouvent dans des formations qui sont sélectives. Donc, dans les IUT, mais également dans les sections de techniciens supérieurs, voire dans les écoles de management et de culture. Donc on voit déjà là que l'adéquation entre sélectif et électif ne fonctionne pas forcément. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une formation sélective qu'on a forcément choisi son orientation ou qu'on est dans l'orientation qu'on aurait voulu faire en premier lieu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément qu'il faut dire également, une formation professionnalisante comme les BTS ne signifie pas forcément que le projet professionnel est en adéquation avec l'intitulé du BTS. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé pendant mon enquête. Un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes avaient un projet professionnel qui ne correspondait pas du tout à l'intitulé de leur diplôme, et ça leur posait aucun problème. Mais là encore, ne pas déduire mécaniquement de l'intitulé du diplôme préparé le projet professionnel des étudiants. Donc ça, c'est la première chose avec cette idée que sélection n'est pas forcément équivalent à élection. Deuxième élément, l'idée que sélection reviendrait à élitisme et permettrait effectivement de choisir les meilleurs bacheliers. Donc si on dessine un espace de l'enseignement supérieur hiérarchisé suivant, alors là, uniquement le critère scolaire, c'est-à-dire, donc en abscisse, on a le taux de bachelier à l'heure, donc plus on va à droite de l'espace, plus on a d'étudiants qui ont obtenu leur bac dans les temps, pour le dire rapidement. Et en ordonnée, on a le taux de bacheliers généraux. Donc, c'est-à-dire, plus on monte dans l'espace, plus eh bien, on a de bacheliers généraux et moins on a, donc, en creux, de bacheliers technologiques et de bacheliers professionnels. Et on se rend compte, donc, en dessinant l'espace de l'enseignement supérieur de cette manière-là, que eh bien, l'enseignement supérieur français n'est pas binaire, mais on pourrait plutôt dire qu'il est divisé en trois, c'est-à-dire qu'on a au centre donc, toutes les formations non sélectives de l'université qui vont finalement se déployer du bas à gauche vers le haut à droite, depuis AES par exemple, qui va accueillir le moins de bacheliers, de bons, on pourrait dire bacheliers, pour le dire là encore très très vite, jusqu'aux filières de santé qui, elles, vont accueillir le plus de bacheliers à l'heure et de bacheliers généraux. Donc toutes ces filières de l'université vont se décliner entre ces deux points. Et puis on a deux pôles qui vont se dégager qui sont tenus par des formations sélectives. On a effectivement des formations sélectives d'élite en haut à droite de l'espace. Ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles, ce sont les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, les écoles d'art. Mais on a également un pôle de formation sélective qui n'accueille pas l'élite des bacheliers, mais qui accueille plutôt majoritairement ceux qu'on appelle soit les nouveaux étudiants ou qu'on pourrait appeler les minorités de l'enseignement supérieur, que sont les bacheliers technologiques, les bacheliers professionnels et, en creux, les bacheliers d'origine populaire. Et là, on va trouver donc les STS qui vont être vraiment tout en bas à gauche de cet espace, mais on va trouver aussi les IFSI, les Instituts de formation aux soins infirmiers. On a également les IUT qui vont être proches finalement des licences universitaires. Et on pourrait trouver aussi également, alors ça ne figure pas là parce que ça n'est pas dans l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, mais les écoles de formation au travail social qui se situent aussi à proximité des IFSI. Si on avait donc les chiffres, on pourrait les placer à cet endroit dans l'espace. Donc on voit bien que sélection ne signifie pas en fait recueillir ou recruter les meilleurs des étudiants. Alors on pourra revenir là-dessus dans la discussion, mais il faut que j'aille très vite si je veux arriver à faire tous mes points. On voit plutôt que ce qui va se poser dans les commissions de sélection, par exemple à l'entrée en STS, ça va être plutôt d'essayer d'évaluer des profils qui vont être le plus ajustés à la formation. Et beaucoup de candidats vont être recalés, non pas parce qu'ils ne sont pas assez bons, mais parce qu'ils sont trop bons. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des enseignants qui vont dire « Non, ça, c'est pas un profil de BTS, ça, c'est un profil d'IUT ». Lui, c'est plutôt pour l'université. Il ne va pas tenir ici en BTS. Ou celui-ci, il n'est pas pour nous. Il est plutôt pour telle ou telle autre formation. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de voir derrière cette idée aussi de sélection. Hein, c'est qu'on ne sélectionne pas forcément une élite, mais on cherche à ajuster plutôt un public à une formation particulière. Je continue sur cette question de la forme pédagogique et du recrutement des étudiants, et j'essaie de faire le lien cette fois-ci avec la réussite et l'échec pendant la formation. Donc on a vu que les sections de techniciens supérieurs étaient les formations de l'enseignement supérieur qui accueillaient très largement les nouveaux étudiants et qui participaient beaucoup à l'effort, si on peut dire, entre guillemets, de la démocratisation scolaire et sociale de l'enseignement supérieur. Et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est avant même donc les politiques récentes qui visent donc à instituer des quotas et à orienter de manière active des publics vers des formations. À l'heure actuelle, on essaie effectivement d'encourager, par exemple, les bacheliers professionnels à aller plutôt en BTS, les bacheliers technologiques à aller plutôt en IUT et les bacheliers généraux à aller où ils veulent. Eh bien, avant même ce travail d'orientation active, on a finalement une certaine docilité, on pourrait dire, ou un certain ajustement, en fait, des publics aux formations. Et pour vous donner un schéma, hein, les bacheliers professionnels, par exemple, ça a été dit également hier, ils ne vont pas massivement vers l'université, mais ils vont plutôt massivement vers les cycles courts que sont les IUT et les STS. Hein, donc c'est toute la partie gris foncé, en fait, qui est en bas, qui montre que, voilà, de manière privilégiée et avant même qu'on essaie de les orienter activement, ils sont plutôt disposés à s'orienter vers les cycles courts. Mais, parce qu'il y a un mais, une fois qu'ils sont effectivement dans ces cycles courts, et notamment dans les BTS, donc là je reprends les analyses et les résultats de mon travail de suivi de cohorte, on se rend compte que ces bacheliers professionnels ne sont pas forcément en parcours de réussite dans ces formations. Alors là, je propose dans ce tableau de montrer un petit peu comment évolue la cohorte au fil du temps. À l'issue de la première année, donc, on voit qu'on a 7,7% d'abandon chez les bacheliers généraux. On va en avoir 17,8% chez les bacheliers professionnels. Si je descends un peu plus bas, alors redoublement, il y en a relativement peu. Abandon en deuxième année, il y en a relativement peu aussi. On a un taux de présenté au BTS. Et ensuite, on se rend compte que le taux d'admission au BTS par rapport au présenté va, là aussi, eh bien, ne pas être à l'avantage des bacheliers professionnels qui vont avoir un taux de réussite de 71,1% contre 88,9% pour les bacheliers généraux. Donc, difficulté à s'accrocher à la formation pour les bacheliers professionnels par rapport aux autres types de bacheliers et difficulté à obtenir le diplôme à la fin de la formation. Donc, on voit bien que pour agir sur la question de l'échec et de la réussite dans l'enseignement supérieur, on ne peut pas s'en tenir à une politique de gestion des flux et à une orientation active qui attribuerait eh bien, des formations privilégiées à des publics particuliers, parce que cette politique-là, à mon sens, n'aurait que peu d'effet, puisque d'une part, je l'ai dit, Les publics sont déjà prédisposés et relativement bien ajustés par leur trajectoire scolaire et sociale antérieure aux formations qui leur vont le mieux, hein, là pour parler très très vite encore. Donc ça n'aurait des effets qu'à la marge, finalement, une telle politique, hein, de travailler uniquement sur des questions de gestion des flux. Et ça ne règle pas la question de l'abandon et de l'échec, puisqu'on voit qu'il touche principalement ici les bacheliers professionnels. Je vais très vite et j'en passe à mon second point, forme pédagogique et effet sur les parcours. Alors, ce qu'il faut dire pour évoquer un peu la particularité des BTS et puis à la marge un peu les IUT, c'est qu'effectivement, par rapport à l'université, au premier cycle universitaire, on a des formations où le taux d'encadrement est très serré et où la gestion du temps, en fait, va être prise en charge par l'institution scolaire. Donc ça va permettre effectivement, eh bien, aux étudiants d'être soulagés de leur organisation temporelle, de la gestion du passage au temps scolaire et extrascolaire, quand est-ce que je dois travailler, quand est-ce que je ne dois pas travailler, etc. Ça, c'est l'institution scolaire qui va prendre en charge cela. Et ça constitue, hein, cet encadrement, un des critères principaux pour l'entrée dans ces formations. Les étudiants sont en demande de ce cadre pour justement gérer à leur place, eh bien, cette gestion du temps. Et effectivement, cet encadrement institutionnel, il n'y est pas pour rien, dans les taux de rétention très forts, hein, qu'on observe en BTS, je ne l'ai pas dit, je suis passé très vite là-dessus, mais effectivement, les sections de techniciens supérieurs sont les bons élèves de l'enseignement supérieur en termes de taux de passage en deuxième année, avec seulement environ 10%, dans ma cohorte c'est un petit peu plus, mais on est à peu près à 10% de taux d'abandon à l'issue de la première année, donc c'est vraiment les bons élèves. Donc, c'est dû en partie, effectivement, à ce cadre très resserré dont on a vu, qu'il manque, effectivement, à l'université et dont les étudiants, effectivement, se plaignent du manque de ce cadre. Ce cadre, il va avoir deux effets. Il va avoir un effet, effectivement, de maintien des étudiants dans la formation, mais il a aussi un deuxième effet que j'ai pu observer dans le suivi de ma cohorte, c'est qu'il va contribuer à renforcer les aspirations scolaires des étudiants. Et ça, on le voit justement en les interrogeant régulièrement pendant la formation, c'est qu'entre le début et la fin de la formation en BTS, eh bien, les aspirations scolaires des étudiants augmentent. Il y a environ, alors je reviendrai sur les chiffres, je les ai ici, voilà. Donc P1, c'est début de la première année, P2, deuxième passation, début de la deuxième année, P3, troisième passation, fin de la deuxième année de BTS. Et on voit qu'on avait 41,9% des étudiants donc, sur la première ligne qui voulaient continuer leurs études après le diplôme en entrant dans la formation, et ils sont 56,3 à la sortie, hein, au moment de passer le diplôme, qui souhaitent poursuivre eh bien, après la formation. Autre élément qui va contribuer à tenir les étudiants, à faire adhérer les étudiants à la formation, c'est l'aspect professionnalisant également. Hein. Le fait de s'y sentir à sa place, de s'y retrouver, eh bien, ça va aussi tenir à la prise en charge par l'institution de la relation formation-emploi, puisqu'on a des intitulés de diplômes très précis, avec des secteurs visés qui sont bien délimités, et on a également des matières qui sont professionnalisante et donc directement en lien avec le métier qui est visé. Donc ça aussi, ça va participer à l'adhésion des étudiants à la formation et ça fait partie aussi d'un critère très très fortement cité par les étudiants pour rentrer dans ce type de formation. Cependant, donc si on a un cadre qui semble effectivement bien tenir les étudiants, on a malgré tout des abandons, on l'a dit tout à l'heure, hein, le phénomène d'abandon existe également en BTS, et notamment de manière accentuée pour les bacheliers professionnels. Et on a également un deuxième type d'échec qu'on peut identifier là aussi grâce au suivi de cohorte, c'est les poursuites d'études qui ne sont pas concrétisées à la sortie de la formation. Donc, on se rend compte finalement, alors là, sans rentrer dans les détails, que, eh bien, on a finalement un tiers des étudiants, pour le dire très vite, qui poursuivent effectivement à l'issue de la formation, là où tout à l'heure on avait presque deux tiers qui souhaitaient poursuivre. Donc, Comment comprendre cela? Eh bien, ça nécessite, cette fois-ci, de ne pas s'en tenir à une analyse des formes pédagogiques déconnectées à la fois des profils des étudiants, de l'offre réelle d'enseignement supérieur et de l'offre symbolique d'enseignement supérieur. Et là, je vais passer donc au lien qui me semble nécessaire de faire quand on analyse une forme pédagogique, faire le lien avec les types de publics. Car effectivement, je l'ai dit, le cadre très serré de la formation convient aux étudiants et leur permet de tenir et d'adhérer à la formation et donc de minimiser le taux d'abandon, mais il ne convient pas à tout le monde. Il convient à une partie seulement des étudiants. Et un certain nombre d'étudiants ne va pas s'y retrouver dans ce cadre très serré, ne va pas trouver sa place. Alors, va trouver effectivement que la cohésion est trop, enfin, qu'il y a trop, que le huis clos est trop important, que les contraintes sont trop fortes. Et également, en ce qui concerne le caractère professionnalisant, un certain nombre d'étudiants ne va pas s'y retrouver non plus dans des enseignements qui vont être essentiellement portés sur la pratique et très peu sur la théorie. Et au final, on observe donc à la fin de la première année environ 10% d'abandon. Et parmi ces abandons, on peut distinguer deux types d'abandons, ce que j'ai appelé des abandons par le bas et des abandons par le haut. Abandon par le bas, c'est effectivement des étudiants qui vont être en difficulté scolaires et qui vont sortir du BTS à l'issue de la première année et soit être exclus de l'enseignement supérieur, donc se rabattre sur des formations de niveau inférieur au bac, type brevet professionnel, CAP, etc., soit qui vont être sortis complètement du système scolaire et qui ne vont donc pas être en formation juste après. Ça, c'est, les types d'abandon plutôt classiques, avec ce que Mathias Mier et Romuald Baudin ont bien montré dans leur travail sur l'abandon à l'université, cet effet un peu de réorientation par le bas, quoi. C'est-à-dire que quand on sort d'une formation, on a tendance plutôt à s'en rabattre sur des formations qui sont symboliquement inférieures dans la hiérarchie. Mais on a également des formes d'abandon par le haut que j'ai pu observer, où les étudiants n'étaient pas à l'aise avec cette forme secondarisée d'enseignement supérieur, avec cette forme professionnalisante d'enseignement supérieur et ont gagné des cursus symboliquement plus élevés, type des écoles de commerce, des premières années d'université, parce que ils étaient à la recherche à la fois d'un cadre plus lâche, à la fois de plus d'autonomie et également à la fois de plus de savoir théorique. Donc on voit finalement que le problème se pose dans les deux sens. À l'université, on va avoir des étudiants qui vont effectivement rechercher du cadre et rechercher de la professionnalisation. Et en BTS, on va avoir le phénomène inverse avec des étudiants qui vont vouloir plus d'autonomie et moins de professionnalisation. Donc c'est pour ça que la question de l'abandon et la question de la pédagogie, elle n'a de sens qu'en fonction des dispositions et des particularités des publics considérés. Et ce qui va convenir à un type de public ne va pas forcément convenir à un autre type de public. Très rapidement, sur la question de faire le lien entre les formes pédagogiques et le contexte réel des formations, là, c'est à propos de ce que je vous disais sur cette augmentation des aspirations scolaires pendant la formation au BTS. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a surprise, parce qu'au départ, quand j'ai commencé ma thèse, je pensais vraiment que le fait d'être étudiant dans une forme très proche du lycée, à l'écart des centres universitaires, allait avoir plutôt des effets modérateurs sur les ambitions scolaires des lycéens, donc des choses qu'on retrouve par exemple dans des travaux aux États-Unis, l'effet de cooling out, de refroidissement en fait des aspirations scolaires, parce qu'on n'est pas dans les cycles longs. Et bien là, on a cet effet inverse. Augmentation des aspirations scolaires, première surprise. Deuxième surprise, quels sont ces étudiants dont les aspirations scolaires augmentent? Et bien, ce sont les étudiants des formations au BTS qui sont situés dans des villes rurales, donc c'est-à-dire loin des centres urbains. Donc là, c'est encore une deuxième surprise, c'est-à-dire comment comprendre que des étudiants qui n'ont à proximité ni émulation des autres étudiants, ni autre type, ni des poursuites d'études possibles à proximité, vont avoir leurs aspirations qui vont s'élever pendant la formation. Et bien là, ça va être lié directement justement au fait qu'il n'y a pas de comparaison avec d'autres étudiants. Et il faut que je me dépêche. Non, ça va, on me dit. Donc, il n'y a pas de comparaison avec d'autres types d'étudiants, c'est-à-dire, pour le dire vite, là encore, je suis désolée, les étudiants dans les lycées ruraux vont avoir comme seul point de comparaison les lycéens. Donc, ils vont voir tout ce qu'ils ont gagné par rapport au statut lycéen. Alors, certains disent qu'ils ont le droit d'avoir accès au lycée plus longtemps que les lycéens. Ils ont une salle spécifique pour eux, les étudiants de BTS. Enfin, voilà. Toutes ces petites reconnaissances symboliques vont avoir un effet, en fait, un effet d'élection, et vont contribuer à renforcer leurs aspirations. À l'inverse, dans les établissements urbains, les étudiants de BTS vont directement se comparer avec les étudiants des autres institutions d'enseignement supérieur, et là, ils vont voir tout ce qu'ils n'ont pas. Ils vont réagir en termes de manque, et ils n'ont pas de bibliothèque universitaire, ils n'ont pas de carte d'étudiant, ils n'ont pas de restaurant universitaire, etc. Et là, ça va contribuer vraiment à leur faire intérioriser leur position vraiment à la marge inférieure de l'enseignement supérieur. Et ça va avoir plutôt un effet là de frein dans leurs aspirations scolaires. Donc ça me semble important, effectivement, hein, sur ces questions de réussite et d'échec, eh bien, de voir ce qu'il y a autour et comment une institution est prise dans un contexte réel d'enseignement supérieur avec ce qu'il y a à proximité. Et les effets, je vous le disais, un peu paradoxaux parfois, de la présence d'autres institutions à proximité. Dernier point, forme pédagogique et relation avec les autres formations de l'enseignement supérieur. Là, c'est effectivement donc ce qu'on observe lorsque l'on suit les étudiants à la sortie des BTS. Et je vous ai dit, donc, 2/3, en gros, veulent poursuivre, 1/3 seulement réussit à poursuivre à ses études. Alors, un premier frein, ça va être la réussite au diplôme, donc qui forcément va empêcher la poursuite d'études. Mais un deuxième élément qui va fortement contraindre les étudiants, c'est le fait que toutes les choses qui avaient été évitées en entrant en BTS, toutes les contraintes qui avaient été évitées en entrant en BTS, vont se reposer à l'issue de la formation. Par exemple, l'éloignement géographique. Beaucoup ont poursuivi leurs études dans le lycée du baccalauréat. Il va falloir, cette fois-ci, trouver les ressources et les dispositions pour faire un déplacement géographique. Il va falloir aussi trouver les ressources pour se repérer dans l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur, ce qui avait pu, là encore, être évité auparavant. Et autre problème qui va se poser, donc pour ceux qui, à la fois, ont réussi le diplôme, qui ont réussi à mobiliser ces ressources qui leur permettent cette fois-ci de gagner d'autres cursus de l'enseignement supérieur. Ce qui va se poser, c'est la comparaison entre ces étudiants-là et puis les autres, une fois qu'ils seront dans la même institution, type licence professionnelle ou licence générale ou école de commerce ou d'ingénieur, dans lesquelles ils vont se retrouver. Et bien là, il va y avoir clairement une différence entre ces étudiants de BTS et puis les autres. Une différence dans la gestion de l'autonomie, puisque, en effet, l'institution a pris en charge pendant 2 ans cette gestion du temps et le passage du temps scolaire au temps extrascolaire, mais en creux, ou négativement, on pourrait dire, ils n'ont pas appris à gérer l'autonomie. On a pris en charge ça, on les a soulagés de ça, mais on ne leur a pas donné les moyens de se débrouiller en autonomie pendant les 2 années de formation. Ce qui fait qu'ils vont se retrouver en difficulté lorsqu'ils vont gagner des cursus où il va falloir gérer davantage son temps soi-même. Autre difficulté et décalage qui va s'opérer avec les autres étudiants, ça va être le rapport entre la théorie et la pratique. Pendant 2 années, ils vont être essentiellement soumis à des savoirs pratiques et ça va leur faire les savoirs théoriques vont leur faire défaut au moment de gagner d'autres cursus. Et là, c'est des témoignages qu'ils m'ont fait, où clairement, on les considérait différemment des sortants d'IUT, par exemple, ou des sortants de licence, en disant, là, les étudiants de BTS, vous aurez peut-être plus de mal à comprendre. C'est les enseignants qui parlaient comme ça, parce que vous n'avez pas le bagage théorique des autres. Et donc, ce décalage, il va également peser au moment de se retrouver donc, dans des poursuites d'études longues. Et je finis donc là-dessus, en rappelant effectivement ce qui me semble important, c'est-à-dire de ne pas penser, ou en tout cas de ne pas avoir une réflexion sur la pédagogie dans l'enseignement supérieur de manière isolée, c'est-à-dire en considérant une seule institution, mais plutôt en considérant l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur et en pensant bien que tout fait système et en pensant aussi les liens entre forme pédagogique et type de public et qu'une même forme pédagogique ne va pas convenir à des publics différents. Voilà, je vous remercie.
Merci Sophie Orange.